you raising or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Pierre Faucillon. La réalisation signée Daniel Finot. La dispute change d'horaire donc, mais ne change pas de principe. Elle réunit les meilleures critiques pour passer au crible toute l'actualité culturelle. La nouveauté, c'est que nous souhaitons faire entendre les opinions et commentaires de celles et ceux qui nous écoutent, d'être pendant cette heure leur porte-parole. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez poster vos commentaires sur la page Facebook La Dispute FC. En amont de l'émission, nous ferons chaque jour à 20h le fil Facebook avec le programme de l'émission du lendemain, à vous de le nourrir. Vous pouvez aussi réagir pendant le direct sur le compte Twitter Dispute FC avec le hashtag La Dispute. À chaque soir, sa discipline avec quelques changements par rapport aux 6 premières saisons de La Dispute. Mardi sera désormais le jour de la musique. On alternera toujours musiques actuelles et musiques classiques. Mercredi reste le jour des arts plastiques. Jeudi sera le jour consacré aux livres et à la bande dessinée. Vendredi devient le jour du cinéma pour vous laisser le temps de découvrir les films dont nous allons parler, cinéma et séries, évidemment toujours régulièrement. Lundi reste le jour du spectacle vivant, théâtre, danse, art du cirque, voire opéra. Nouveauté également, la présence de 3 critiques chaque soir autour de moi pour parler de 3 sujets. Présence également, plus discrète, mais non moins importante, d'Aïssa Toundoy, de Boris Pino et de Jean-Christophe Brianchon qui surveilleront en alternance le fil Twitter pendant le direct pour donner à entendre vos commentaires. Et pour cette première, les critiques qui essuient les plâtres de cette nouvelle formule, cette nouvelle case horaire, surtout sont Fabienne Pascaud. Je suis très heureux de vous retrouver, Fabienne. Philippe Chevillet.
Moi aussi, je suis ravi.
Bon. Il ne manquerait plus que vous disiez autre chose, ça commencerait très très mal. Jean-Christophe Brianchon, déjà critique, en même temps que membre de l'équipe de La Dispute. Bonsoir Jean-Christophe.
Encore plus ravi que mes collègues de vous retrouver.
Bon, ne faites pas surenchère. Dire que vous resterez bien sûr comme critique Jean-Christophe, mais qu'au mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, nous retrouverons Lucille Comeau, qu'on embrasse bien fort, qui reviendra parmi nous. À notre affiche, ce soir, un retour sur le Festival d'Avignon pour parler plus précisément d'Antigone, de Sophocle, mise en scène par Satoshi Miyagi, Saigon de Karine Guela Nguyen, qui partira en tournée, et puis Ibsen Huis, d'après Ibsen, texte et mise en scène de Simon Stone. Une chose qui ne change pas, toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute. Ce soir, on fera gagner des invitations pour voir l'exposition Diorama, à découvrir jusqu'au 10 septembre au Palais de Tokyo, à Paris. Après cette longue mais nécessaire introduction, il y en aura plusieurs cette semaine comme ça, on va ouvrir vraiment cette première dispute de la saison avec le spectacle qui lui a ouvert le Festival d'Avignon dans la cour d'honneur. Peut-être qu'auparavant, premier rapide tour de table pour recueillir des impressions un peu générales quand même sur la cuvée 2017, la 4e édition dirigée par Olivier Py. Un petit commentaire un peu général, Fabienne Pascaud, sur cette édition, cette cuvée.
C'était pas une cuvée avec des milliards de moments très forts, mais ça dépend aussi de la programmation de l'année. On n'a pas été ébloui par la saison théâtrale, ce qu'on a pu voir à Paris. Donc il y a aucune raison que, par miracle, le Festival d'Avignon soit rempli de fulgurance. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était une... Moi, j'ai découvert plein de créateurs africains. Il y a quelques coups de cœur, notamment le Castorf, qui, hélas, on ne reverra pas du tout, mais que j'avais trouvé formidable et quelques quand même très beaux spectacles dont on va parler là.
Absolument. Philippe Chevillier, impression générale.
Alors, par rapport à l'année précédente, on n'avait pas les grands effets de la Cour d'honneur avec Vanhove et la Comédie française et les Danais. On n'avait pas 2066 dans à la Fabrica. Donc c'est vrai que ça donnait peut-être un départ un petit peu plus feutré, si je puis dire, au festival. Néanmoins, moi aussi, c'est pareil. J'ai eu vraiment des vraies révélations, des chocs. Le Castorf dont parlait Fabienne, le Sopro hein, de Thiago Rodriguez, et puis quelques petites choses aussi dont on va parler pendant l'émission, qui m'ont beaucoup plu.
Et aussi. Puis au fur et à mesure de la saison aussi, quand des spectacles seront repris un peu partout en France. Jean-Christophe Brianchon, impression sur cette cuvée 2017 du Festival d'Avignon?
J'en étais pas ravi, honnêtement. Après,
ça, c'est votre caractère.
C'est mon caractère global.
Votre inclinaison naturelle.
Voilà, c'est pour ça que je suis là. Mais après, j'ai été content de deux choses. D'une part, ça m'a quand même permis de renforcer un avis que j'ai sur ce qui est en train de devenir dernièrement ce festival. Qu'on ne peut pas critiquer quelque chose, un festival de théâtre national populaire comme Olivier Piss en revendique. On peut pas le critiquer, c'est son choix. Donc voilà, ça m'a permis de conforter cette idée-là. Ensuite, j'ai été quand même assez content de trouver des choses assez intéressantes dans le off, du coup. J'ai l'impression qu'une certaine forme que les tentatives, petit à petit, se décalent vers le off, voyant que peut-être il est plus difficile d'en proposer dans le in. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais malgré tout, quand même, quelques propositions très intéressantes dans le in aussi.
Peut-être que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Fabienne Pascaud, retour sur cette polémique qui avait suivi l'annonce de ce Focus Afrique. Alors, a posteriori, est-ce que la polémique avait du sens ou est-ce que finalement on a pu découvrir, vous le disiez, des créateurs qu'on voyait moins?
Je ne comprenais pas très bien ce que Jean-Christophe voulait dire quand il disait qu'Olivier Py n'a jamais interdit qu'on critique le festival.
Non.
Ah non, c'était non, au contraire, non, il pousse au débat démocratique.
Oui, on l'avait avec
ça, c'est plutôt
quand je dis
côté
qu'on ne peut
positif.
Pas le critiquer, c'est simplement que c'est son choix, c'est une ligne éditoriale et à partir de là, je trouve qu'il la respecte. Il y colle, il correspond exactement, il fait exactement ce qu'il veut faire. À partir de là, je trouve qu'il est difficile de le critiquer puisque finalement, il le réussit même très bien.
D'accord, très bien. Non, moi, ce que j'avais...
Touche pas à mon Olivier Py, a dit Fabienne
non,
Pascaud.
Non, parce que je trouve qu'il fait très honnêtement et plutôt loyalement son boulot et que j'avais des réserves quand il a été nommé à la tête du festival, mais je trouve qu'il réussit plutôt bien dans ce qu'il fait. Par rapport à l'Afrique, alors je vais avouer mon incompétence, Arnaud, c'est que la polémique, elle était... sur le fait qu'il y avait beaucoup de créateurs africains connus, des spécialistes et que finalement il n'y avait pas beaucoup de découvertes au festival. Mm-hmm. Moi, il se trouve que les créateurs africains très connus, des spécialistes, je les connaissais pas tous. Donc loin de là. Donc j'ai été contente de les découvrir. Donc moi j'ai découvert plein de choses. Maintenant que ça ne soit pas des créateurs plus peut-être rares, aux yeux des experts, sans doute. Mais pour les miens, c'était bien.
Pour les miens aussi, Jean-Christophe, un champ d'avis sur cette question du Focus Afrique.
En matière d'artistes africains, comme Fabienne, je reconnaîtrais totalement en ce qui me concerne, mon incompétence, honnêtement. Donc j'ai pu découvrir effectivement des gens qui, semble-t-il, étaient déjà des grands noms, mais que j'étais quand même très content de découvrir, parmi lesquels Dorothée Mounianeza. Moi, j'ai été très touché par son discours. Peut-être que la proposition était... discutable, mais en tout cas, je trouve que son discours et sa manière de l'exposer étaient absolument remarquables.
Philippe, un mot là-dessus, Philippe Chevillier.
Moi, alors on a aussi beaucoup parlé du fait qu'il y avait plus de danse que de bon. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la question effectivement parce que moi j'ai pas eu autant de découvertes dans ce domaine, mais juste pour revenir pour synthétiser un peu ce que vous avez dit, Fabienne et Jean-Christophe, c'est que je pense que c'est certes un festival populaire, ce qui est très bien, mais surtout un festival qui est assez œcuménique parce que dans le côté populaire, on peut mettre certains spectacles, bien sûr, mais quand on voit par exemple du Castorf ou d'autres spectacles plus expérimentaux, je pense qu'il y a quand même un bon mix et que c'est. Et j'en reviens à l'idée que c'est vraiment un bon programmateur. Après 3 années de rodage, il s'en sort assez bien.
Bien justement, on va donner quelques idées de cette programmation avec des spectacles assez différents que nous avons choisis. Trois spectacles comme trois couleurs aussi de cette édition 2017. On commence par la Cour d'honneur avec cette Antigone d'Après Sophocle, revue par le metteur en scène japonais Satoshi Miyagi qui était déjà venu à Avignon, c'était en 2014. Il proposait une relecture du Mahabharata, c'était à la carrière de Boulbon cette année. Alors, il faut d'abord dire que le metteur en scène japonais a pris, me semble-t-il, toute la mesure de la cour, que le spectacle devait être aussi beau au premier qu'au dernier rang. Alors, c'est un compliment qui peut être à double tranchant. C'est pour qui considérerait le théâtre de divertissement populaire comme un genre amoindri du théâtre d'art.
Parce que... pas ce que j'ai dit.
Non, mais vous pourrez préciser votre propos, en tout cas, dans un instant, Jean-Christophe Brianchon. Miyagi a eu une idée simple, belle d'ailleurs, de servir de l'immense mur du palais des papes, du palais de la cour d'honneur en guise d'écran de son théâtre d'ombre. Il faut préciser qu'il y a toujours chez lui quelqu'un qui dit le texte, un comédien qui dit le texte, il y a quelqu'un qui figure le personnage, et donc il y a toujours une distinction entre celui qui dit et celui qui incarne. Mais là, il y a une troisième dimension avec cette ombre du personnage, des ombres immenses dans la cour d'honneur. Philippe Chevillier va nous traduire
ce rap japonais.
L'extrait que nous venons d'entendre. Non, plus sérieusement, Philippe Chevillier sur Antigone, qu'on a vu dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
J'ai trouvé que c'était un beau spectacle, mais qui ne m'a pas bouleversé. Le point de départ, ce que vous disiez, est tout à fait juste. On ne peut pas reprocher ce choix, dans la mesure où c'est un grand texte. Hein. Antigone, enfin, dans la cour d'honneur. Bon, non, mais les gens qui disent toujours qu'il n'y a plus de texte dans la cour d'honneur, là, il y a un texte dans la cour d'honneur, il y a ce fort. Bon, qui est transposé, donc c'est intéressant, par une forme de théâtre voilà, qui utilise un peu la tradition, la modernité, le folklore, etc. Mais pas seulement. La maîtrise de la cour d'honneur, comme vous disiez, c'est vrai que c'est assez beau cette étendue liquide et qui se prête surtout à la fin du spectacle à des scènes qui sont de rites funèbres qui sont assez belles. Et puis l'utilisation donc de ces ombres un peu à l'indonésienne, on voit des combats d'ombres sur le mur. Il a vraiment pris au sérieux, il a vraiment pris la mesure de l'espace, et ça donne un spectacle qui est beau, qui a des images poétiques. Le problème, c'est que cette Antigone, on l'aime bien quand même rebelle, on l'aime peut-être plus extrême et radical que dans cette présentation. Alors, il a une analyse là-dessus. Miyagi dit que finalement, il voudrait en faire une image un peu de quelqu'un qui réconcilierait avec le monde, une image post-bouddhique où on célébrerait un peu les morts, on y aurait une vision pacifiée finalement de cette tragédie. Je trouve pas que ça fonctionne admirablement. Parce que justement, on a tendance un petit peu à se laisser guider par les images et puis par perdre Antigone en chemin. Juste une dernière chose, c'est sur la musique que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, très réussie, où là, on a vraiment l'idée d'une fusion entre de la musique traditionnelle, de la musique électronique. Donc ça, c'est vraiment un des arguments forts du spectacle. Donc j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas été bouleversé.
Ouais, la musique, c'est vraiment... ils sont tout à fait virtuoses, exceptionnelles. Pour le dire, j'ai passé sans doute plus de temps à regarder les musiciens que les interprètes sur le plateau. Jean-Christophe Brianchon, cette Antigone.
Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce spectacle, je vais le dire d'abord, mais je vais quand même commencer par le point négatif, puisque ça me permettra de revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, puisque justement, Philippe, vous disiez qu'on déplorait parfois les grands textes, l'absence de grands textes dans la cour, donc là, voilà, ils sont de retour l'an dernier déjà, sous le roi Lear, je crois que c'était l'an dernier.
Il y a deux ans. C'est les damnés l'an dernier, mais les damnés. C'est comme vous voulez. Hein.
Voilà, bon, on va dire que c'est l'an dernier pour me...
C'était il y a deux ans.
Pour mais me rendre service.
Votre démonstration tient quand même.
Pour au service de la démonstration, exactement.
Il s'avère fausse.
Il s'avère fausse, mais c'est pas grave.
C'est nous.
D'accord. En tout cas, mais ça n'y nuit pas, vous allez voir.
Puisque, je crois que Fabienne, vous avez trouvé un vrai camarade de jeu, là, dans la mauvaise foi qui vous caractérise habituellement.
Ah oui, tant mieux, c'est chouette.
Là, on a donc un grand texte, c'est sûr, c'est même certain, qui fait venir du monde, bien sûr aussi, dans une mise en scène et une scénographie absolument... voilà, qui ne choque pas, qui permettra à tout le monde de s'y retrouver plus tôt, voir une poésie accessible à tous, etc. Donc c'est très chouette. Seulement, moi je me pose quand même la question de l'opportunité qui est donnée à un programmateur de permettre à 2000 personnes tous les soirs, puisque tous les soirs de toute façon sera court, la cour sera pleine, et bien permettre à 2000 personnes de voir quelque chose peut-être d'un petit peu difficile, avec une poésie un peu plus dure, avec un texte un peu moins grand, peut-être un peu moins ouvert à tous. Là, voilà, cette opportunité-là n'est pas prise et donc on permet effectivement aux gens de prendre du plaisir, mais en tout cas je pense pas qu'on leur permette d'aller ailleurs et de découvrir un autre théâtre en montrant ça.
On
malgré
trouve quand
le
même
fait...
une autre forme théâtrale, parce que alors, peu de gens quand même ont accès à ce type de
répertoire. On trouve une autre forme, mais qui dans le sentiment qu'elle fera naître chez les gens et dans la possibilité qui leur sera donnée de... Voilà, peut-être d'aller réellement ailleurs, mais pas sur un plan esthétique, puisque là, esthétiquement, évidemment qu'on se retrouve ailleurs, mais sur un plan peut-être intellectuel ou émotionnel, là, non, je trouve pas. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est ça que je questionnais tout à l'heure sur cette idée de théâtre national populaire. Je me dis, quand on a l'opportunité d'avoir une salle pleine tous les soirs, bah, autant montrer quelque chose d'un peu plus dur. Là, c'est pas le cas.
Fabienne Pascoe.
Je trouve pas que ça soit si facile de monter Antigone par des acteurs japonais avec le parti pris de faire de diviser chaque rôle en deux, avec un côté un acteur qui danse avec son corps et qui exprime avec son corps et avec ses gestes le personnage, et un autre acteur qui le dit. Déjà, cette dichotomie entre corps et verbe en soi est intéressante, hein.
C'est intéressant.
Donc ça, c'est pas anodin et c'est assez beau. Ensuite, qu'on s'empare d'Antigone. Antigone a été assez présente au festival cette année. Il y a plusieurs spectacles qui l'ont évoqué. Pourquoi ? Parce que c'est le thème de la désobéissance dans nos sociétés actuelles où on obéit tous comme des veaux, hein, en gros. Donc là, il va y avoir un essai très intéressant, je crois, de Frédéric Gros sur désobéir. Et là, c'est vrai que ça pose le problème. Mais ça le pose à la japonaise. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce spectacle, c'est que finalement, il fait pas forcément d'Antigone la figure héroïque. Il renvoie Antigone et Créon dos à dos. Il y en a pas un qui a forcément plus raison que l'autre. La raison du cœur, de l'âme, le respect des morts et la raison d'État, ben, tel que c'est monté, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est vrai que dans une dimension un peu bouddhique, il y a pas de bien, il y a pas de mal. Et ça, je trouve ça assez pertinent, notamment par rapport à tout l'imaginaire qu'on traîne en Occident sur cette rebelle, sur cette Antigone. Et ben là, il fait d'Antigone une fille qui a pas forcément raison. Et donc, il nous montre que la raison, le tort, le bien, le mal, c'est pas forcément où on le croit. Et ça, je trouve ça assez juste et assez fort dans sa mise en scène.
La question que je me posais en regardant ce spectacle, c'est où est Antigone dans tout cela, malgré tout ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce propos politique, il y a ce propos et cette dimension très hiératique, très belle. Hein. C'est vrai qu'on prend un grand plaisir un plastique. C'est un fait de très belles photos, en fait, sur ce spectacle. Il n'y a pas une image qui ne colle pas. Je trouve que l'entrée l'entrée du spectacle était réussie, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais des interprètes, et notamment une interprète qui va être Antigone, d'ailleurs je crois, résume en 5 minutes chrono et en mode burlesque et en français, bon, surtitré quand même sur le mur, la tragédie. Ça vous plaît pas, c'est trop populaire, Jean-Christophe Brianchamp, mais il y a une façon, il y a comme ça un pacte qui est passé tout de suite avec le public, et je trouvais que c'était assez habile.
Mais alors, quel est ce pacte, justement? Je me suis posé la question.
Parce que comme pour vous, c'est difficile d'accéder à notre forme de théâtre, on vous donne la base, comme ça, vous pouvez vous laisser aller à regarder le spectacle en connaissant l'histoire
c'est aussi une manière de dire, finalement, bon, l'histoire, je l'évacue, et maintenant, regardez, voilà, alors j'ancre mon théâtre dans le le post-dramatisme le plus parfait. Et maintenant, ce que vous allez voir, c'est mon œuvre de metteur en scène.
C'était là où je voulais en venir, parce que comme ça, vous poursuivez ma démonstration. Parce qu'effectivement, ensuite, moi, je me suis quand même parfois un petit peu ennuyé, parce qu'il y a 1h30, après ces 5 premières minutes d'exposition. Pour autant, c'est vrai que la beauté, c'est pas ce qui est le plus fréquent sur les plateaux de théâtre, donc je ne vais pas bouder mon plaisir de voir un spectacle très réussi musicalement. C'est vrai, on l'a déjà souligné, pour moi c'est vraiment un émerveillement. Je suis plus à un concert avec des très belles images, une très belle scénographie, qu'un spectacle de théâtre. Alors j'entends ces propos politiques, Fabienne, mais ils sont quand même... Il faut aller les chercher avec toute votre science de spectatrice.
Mais il suffit de se rappeler la légende. Hein. En fait, Éthéocle et Polynice, fils de Jocaste et d'Œdipe, avaient décidé à la mort d'Œdipe et de leur mère de se partager le pouvoir. Et Éthéocle, il devait se le partager tous les ans ou tous les deux ans, je ne sais plus. Et Éthéocle refuse de céder sa place. Donc Polynice l'attaque très légitimement. Donc finalement, pourquoi on prend le... Vous voyez, les dés sont complètement pipés dans l'interprétation même de la pièce. Parce que pourquoi on défendrait Éthéocle qui refuse de donner le pouvoir alors que constitutionnellement, il doit le rendre à son frère. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que... Ce que j'aime, moi, c'est qu'il n'y a pas de réponse tranchée dans ce spectacle.
Philippe Chevillier.
Alors moi, je pense qu'on en arrive au sentiment. Moi, je ne déteste pas cette introduction burlesque, parce qu'après tout, ça crée un contraste, ça met dans un état un peu bizarre, parce qu'on sait qu'on va assister à une tragédie, puis il y a ce côté burlesque au départ, une dérision qui est intéressante, on est un peu ailleurs. Mais ce que je crois, c'est qu'au bout du compte, le ressenti, pour moi, on nous raconte un conte très ancien, un conte. Et moi, je pense que, contrairement à Fabienne, je pense que les enjeux, ils s'évacuent, et qu'à la limite, on pourrait se dire qu'on pourrait enchaîner sur une très belle autre tragédie, dit dans le même contexte, et qu'on aurait un petit peu la même impression, le même effet de voir des personnages très beaux qui reviennent. Et moi, j'adore les contes, mais je trouve que pour Antigone, c'est un peu court de nous l'amener comme ça sur...
Il n'évacue pas et dit que personne n'a raison.
Oui. Mais le spectateur oublie, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, je trouve qu'à un moment donné, on oublie la tragédie pour se laisser porter par ce coryphée ou cette assemblée de morts, parce qu'il y a quand même le fleuve et tout ça, c'est assez beau. On a l'impression que le théâtre, enfin la pièce de théâtre est déjà morte quelque part et qu'on assiste à un rite funèbre de ce théâtre.
Moi, je dirais que c'est la fin du premier round, hein, avec cette élégie de Philippe Chevillier pour parler d'Antigone, mise en scène par Satoshi Miyagi dans la cour d'honneur, qu'on verra peut-être un jour à nouveau en France. Il y a quand même des grands plateaux qui peuvent l'accueillir. Sinon, Miyagi sera à la Colline, à Paris, mais en septembre 2018. Il faudra attendre un petit peu. Il va faire une mise en scène d'après un texte de Leonora Miano, figurez-vous, Satoshi Miyagi. À suivre dans la dispute, Caroline Guela Nguyen et Simon Stone. Si vous avez vu leur spectacle, n'hésitez pas à réagir en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le deuxième spectacle à notre affiche ce soir, c'est Saïgon, nouvelle création de la jeune metteur en scène qui monte, Caroline Guela Nguyen. Spectacle créé à Valence, à la Comédie de Valence, qui sera en tournée cette saison à partir de novembre. D'abord à Grenoble, puis à l'Odéon, à Paris, à Rouen, à Dijon, à Valence à nouveau, à Besançon, à Rennes, à Tours. Notre dispute concerne potentiellement beaucoup de monde à travers ce pays. On parle beaucoup depuis quelques années des récits manquants dans le théâtre en France. Des récits manquants qui vont souvent de pair avec des corps absents et aussi des plateaux. Cela a à voir bien sûr avec la colonisation et aussi avec donc les guerres coloniales. Pour nourrir ce nouveau spectacle, Caroline Guela Nguyen est allée à Ho Chi Minh Ville. Le spectacle, lui, se déroule dans un décor de restaurant, dans deux lieux différents, au Vietnam et en France, à différentes époques. Plusieurs destins vont s'y croiser.
Lynn, je ne te connais pas encore, mais je suis certaine que tu es une femme magnifique.
Qu'est-ce que c'est ?
Édouard, c'est tes parents qu'on attend ?
Oui. Oui. Et tu sais quoi, je vais t'offrir une maison avec un jardin, avec, tu sais quoi, ton permis. Tu vas passer ton permis parce que je vais t'acheter une voiture. Et j'ai un ami à moi, je ne sais plus comment il s'appelle... En tout cas, il a fait des grandes études à la Sorbonne et il m'a dit que tu pouvais intégrer les meilleures classes de la Sorbonne et tu pourras les réciter poèmes. Et tu sais quoi, elle connaît des poèmes de... Comment il s'appelle le monsieur là? Il s'appelle... Comment il s'appelle?
Victor Hugo.
Attends, elle connaît des poèmes de Victor Hugo.
Le deuxième spectacle à l'affiche, c'est donc Saïgon, peut-être Boris Pinot, un petit commentaire sur Twitter de F. Mérotte.
F. Mérotte qui nous dit qu'il sait bien que les auditeurs sont censés interagir sur les thèmes de l'émission, mais qu'ils préfèrent nous écouter.
Bon, alors, c'est très gentil à vous de vouloir nous écouter, mais vraiment, on vous invite à interagir avec nous en amont de l'émission sur la page Facebook, sur le site, sur le fil Twitter, de la dispute. Bon, Lucille Como nous a envoyé un petit tweet qui... On peut le dire ou pas, Boris? Oui, on peut le dire. Je peux dire que j'aime pas, même si j'ai rien vu. Ça, c'est bien notre Lucille adorée, qui reviendra bientôt nous voir. Bon, allez, je ferme cette parenthèse. Saïgon, cette création de Caroline Guéla Nguyen, qui va beaucoup tourner en France cette année. C'est vrai que c'est une jeune metteur en scène, auteur aussi, donc, puisque ce spectacle est une création collective. J'ai cherché encore dans le programme et dans le dossier de presse. Il n'y a pas marqué de qui est le texte. C'est une question qu'on pourrait se poser concernant Saïgon, mais c'est vraiment un travail, on va dire, de matériaux collectifs. Jean-Christophe Brianchon sur Saïgon, spectacle long cours.
Ça va beaucoup tourner et je suis très content.
Voilà. Bon, très bien.
On peut passer à autre chose. Mais je suis très content parce que, concrètement, on est donc, comme vous le disiez, dans un bar-restaurant vietnamien avec, qui se trouve être un lieu de retrouvailles d'une troupe chorale composée de Français, de Vietnamiens, de Franco-Vietnamiens. Et ce lieu se trouvera être le point de cristallisation de toutes ces histoires, de toutes les histoires de ces gens entre le Saïgon des années 50 et la France d'aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très intéressant par l'ultra sensibilité qu'elle met à travers cette histoire, parce que finalement, bon, l'histoire est peut-être un peu prétexte. C'est des histoires individuelles de l'histoire coloniale française, etc. Bon, donc en soi, on s'en fiche peut-être un petit peu, mais finalement, l'idée qu'elle met derrière tout ça, la sensibilité qu'elle met derrière tout ça, et la sensibilité qui veut nous dire finalement l'attachement que chacun a à la géographie et à l'histoire. Et je trouve une idée très intéressante. Je trouve que elle se trouve exactement là, à un endroit, avec une histoire finalement assez banale, mais à un endroit qui est très important selon moi aujourd'hui, cette montrer aux gens que finalement la géographie et l'histoire, ce n'est pas rien. Dans un monde où on peut bouger, où le temps n'a pas d'importance, où on peut zapper, tout faire, tout le temps, partout, là on nous montre que non, finalement, la géographie et l'histoire, ça laisse des traces, en l'occurrence des larmes, beaucoup de larmes, puisque tous ces personnages vont essayer de slalomer dans leur vie à travers les larmes qu'ils versent. Et c'est très beau et je pense, en un sens, assez important.
Fabienne Pascaud, concernant Saïgon.
Ah oui, moi c'est un des spectacles que j'ai préféré du festival. Je crois qu'elle l'a beaucoup coupé au fil des représentations. Nous, on en a vu 2h30, je pense, que c'était beaucoup plus long. Moi, j'ai adoré que quelqu'un s'intéresse à tout un pan de l'histoire française un peu oubliée. Là, c'est l'Indochine. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas parce que dans l'espoir de s'intégrer, eh bien, tous ceux qui sont revenus de Saïgon ou plutôt de Chi Minh-Ville se sont tus, ont voulu prendre des prénoms français, se sont intégrés dans la masse. La seule chose finalement qu'on osait se transmettre, c'était la cuisine. D'où ce restaurant qui est en 1956 et en 1996, tenue par une Marie-Antoinette que ses parents avaient baptisée ainsi, une Vietnamienne, parce qu'ils croyaient que c'était le nom d'une impératrice française. Donc, Tout ça est infiniment délicat et subtil. Le mélange d'acteurs vietnamiens et français, même si on comprend non pas toujours les acteurs vietnamiens, ça donne un charme, une couleur, une émotion toute dans la fragilité. Moi, j'ai eu l'impression de me retrouver devant un film d'Ong Kar-wai, avec ce respect du temps, ses fantômes, ses vivants et ses morts, la séparation qui revient à un leitmotiv. Et de la même manière que j'ai été très émue par l'Antigone, là aussi, dans le festival, c'est un petit peu un retour de l'émotion, des larmes, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, avec des comédiens qui viennent chanter des mélodies terrifiantes et belles à pleurer. Donc, on est content.
Vous parlez des chansons de Sylvie Vartan quand vous dites des mélodies terrifiantes.
Exactement, et de Christophe.
Et de Christophe, ouais, je trouve moins terrifiante.
Donc, c'est bien parce qu'on prend plaisir à se perdre et à retrouver tous des fantômes oubliés de notre histoire. Ça me fait penser au bouquin d'Alice Zénitaire aussi, qui raconte l'hierarchie, une autre population française qu'on a oubliée, qu'on a perdu de vue, qu'on a préféré abandonner. Et là, c'est un coup de poignard, quoi.
Philippe Chevillier, est-ce que vous avez été sensible de la même façon à ce spectacle Saïgon ?
Pas tout à fait. Moi, je suis assez perplexe devant ce spectacle parce que moi, j'aime au théâtre effectivement qu'on soit d'abord ému et qu'on soit transformé. Et j'ai eu de l'émotion, mais pas autant que mes voisins, parce que j'ai vu à la fin les gens pleurent, ils sont debout et ça dure plus longtemps que 2h30. Hein, ça a duré 3h et quelques.
Et tout au début.
Peut-être.
Alors au tout départ, ça durait même 4h30
oui,
à Valence, me semble-t-il. Ouais, ça durait 4h30.
Donc moi, je me suis posé la question parce que je me suis dit, effectivement, il y a plein de bonnes choses dans ce spectacle. Il y a d'abord, je pense, le décor est très très beau et je pense que la façon dont on joue des époques et des lieux avec un même décor est quand même assez formidable. Qu'elle a un sens de l'espace qui permet de faire entrer, sortir les gens, de créer des émotions, des atmosphères qui sont effectivement très réussies, très étonnantes. Une sensibilité qu'on sent chez les personnages, un sens de la lenteur. Mais parfois la lenteur se transforme en longueur. Alors moi je pense que les problèmes du spectacle, ils restent. Et j'ai déjà vu ça dans le précédent spectacle Chagrin. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème de rythme. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut... Alors, je n'ai pas vu la dernière version, mais il faut vraiment... Pour moi, le spectacle que j'ai vu méritait d'être encore resserré. Le deuxième problème, c'est un problème d'écriture. Je trouve que ce n'est pas très bien écrit et qu'il faut encore... Alors, je conçois comment est conçu le spectacle. Elle a fait un livre. Ils ont ensuite essayé au plateau de faire une création collective. Et c'est les limites de la création de plateau. Je trouve que ce n'est pas très bien écrit. Et surtout, c'est au niveau de la direction d'acteurs. À la limite, moi, je trouve très intéressant les acteurs vietnamiens ou franco-vietnamiens. Dans leur jeu, il y a des personnages. Celui de Marie-Antoinette est très, très bien. Les jeunes aussi sont bien. Je trouve que chez les Français, on est très en dessous d'un niveau de jeu pour une pièce qui devrait porter autant de sensibilité. Le personnage, par exemple, d'Antoine, qui est celui donc de la dernière génération, on n'y croit absolument pas. Et du coup, ce spectacle qui m'a fasciné par plein d'endroits, que j'ai trouvé beau, qui m'a laissé un bon souvenir, il y a quand même beaucoup de faiblesses, je trouve, et je me dis, il faut vraiment que dans les prochains spectacles, il y a un travail de dramaturgie, d'écriture, de direction d'acteur. Enfin bref, il y a pas mal de faiblesses quand même dans mon esprit.
Bon, comme Philippe Chevillier a fait le bad cop, je peux faire le good cop maintenant. Ça m'évite de passer pour le méchant parce que j'ai quelques réserves, vous en avez énoncé certaines, Philippe Chevillier. L'influence très grande du cinéma, on la sent, et ça pour moi c'est pas du tout un défaut, dans cette façon d'abord de faire quasiment du montage en direct sur le plateau, qui est très belle, d'enchevêtrer le passé et le présent. Le cadre de scène, on ne l'a pas dit, cette très belle scénographie, c'est vraiment un cadre de cinémascope, donc on est aussi plongé dans un univers cinématographique. La musique, il y a une fonction assignée à la musique
qui rappelle
vraiment...
Ouais.
Bon, les chansons, mais même, il y a beaucoup, beaucoup de musique, comme dans le mélodrame hollywoodien, mais c'est un matériau compliqué, le mélodrame, comme les larmes. Il y a beaucoup de larmes, quand même beaucoup de cris dans Saïgon. Il y en a un peu trop pour moi, voilà, je dois le dire.
On n'a jamais assez.
Ouais, c'est votre passion pour Vincent Macaigne, mais on en parlera. Ça ne crie jamais assez pour
larmes,
vous, Fabienne. Alors, si j'adhère pas complètement au spectacle, moi, je trouve ça bien les gens qui osent. Et là, vraiment, elle ose, Caroline Guylaine-Guyenne, elle y va à fond, elle prend des risques. Je crois que c'est avec une très grande sincérité. Donc, je ne suis pas à l'abri d'aimer prochainement un spectacle totalement, je veux dire, un spectacle de Caroline Guénin-Guyenne. Je pense que c'est quelqu'un qui prend un chemin intéressant. En tout cas, j'ai envie de suivre ce chemin-là. Philippe ?
Mais moi aussi. Hein, j'ai peut-être un peu forcé sur le côté négatif.
Non, mais c'est bien, c'est fait
comme
que, ça.
Voilà, mais il y a une dimension qui me fascine. Il y a quelque chose chez elle que je trouve d'extrêmement à la fois charmant et profond. Il y a un autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé qui était évoqué, je me souviens, à Avignon à la sortie, c'est elle parle des colonies, mais elle ne parle pas du politique, elle évacue le politique. C'est un choix d'ailleurs, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont souffert de ça en disant ça aurait pu être un petit peu plus marqué, un peu plus engagé. Elle ne l'a pas voulu, moi je ne le reproche pas, mais c'est
un
débat.
Il y avait Birgit Ensemble pour ça, une autre création qui parlait aussi d'Antigone et dont on parlera sans doute parce que c'est un spectacle qui va tourner, un diptyque. C'est vrai qu'ils se sont un peu répartis les tâches, et Dorothée Moniazenac, qui on en parlait tout à l'heure, qui elle était vraiment dans le très très politique aussi, mais j'entends cette réserve. Fabienne Pascaud ?
Non, moi, ce dont parlait Philippe, le côté parfois un peu approximatif des choses, pour moi, ça fait partie du charme. Ça fait partie de ces gens paumés entre deux mondes, deux cultures. Le personnage d'Antoine, il est tellement mal à l'aise entre ses origines, entre ce qu'il fait aujourd'hui, que voilà, moi je trouve que ça participe de ce qu'elle veut nous raconter. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa manière de cultiver le temps. On a l'impression d'être en temps direct. Elle le dilue, elle le rétrécit, et on a l'impression de vivre en même temps dans ce restaurant, d'être avec eux.
C'est ce que je disais, mais simplement, il y a des moments où je trouve que, justement, ce temps... Mais on n'a peut-être pas vu le même spectacle, tout à fait.
Forcément.
Par exemple, le retour du vieil homme à Ho Chi Minh, qui est une scène très belle. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, je me suis dit, il y a un petit truc de trop qui fait qu'elle n'est pas aussi bien qu'elle devrait être, cette scène. Et je pense qu'elle elle s'est magistralement étiré le temps, mais qu'à un moment, il faut quand même pas l'étirer trop, quoi.
Jean-Christophe Briançon.
Je suis d'accord, mais enfin, justement, je trouve que cette manière d'étirer le temps est peut-être l'intérêt de cette jeune fille, parce que
la jeune plupart fille, des vous parlez de Caroline Guyenne.
Caroline Guyenne, oui.
Jeune femme,
oui, plutôt, oui. Puisque justement, je trouve qu'elle, du coup, elle se situe à un endroit où, plutôt que de verser dans l'hystérie, ou comme peuvent le faire les jeunes metteurs en scène d'aujourd'hui.
Vous avez des noms, peut-être ?
Non, je me permettrai pas.
Vous êtes UFC, vous êtes là pour ça.
Vincent Macaigne, non ?
Oh, c'est facile, ça c'est facile.
Je rigole pas, un jeune metteur en scène.
C'est un cinéaste et un grand comédien.
Non, mais je laisse poursuivre. Jean-Christophe, vous irez à la Bâtie à Genève pour voir sa création, j'imagine.
Ah, bah évidemment.
Vous irez avec Jean-Christophe. C'est à Lausanne, pardon. Oula, Vidi.
Bon, ceci dit, du coup, voilà, je trouve que.
Sortie de route, là. On revient sur
C'est assez chouette de voir quelqu'un se débattre avec le monde et avec sa vie, puisque manifestement, c'est quand même très personnel. Mais voilà, sans hystérisation et sans politisation, justement. Donc là, on est juste dans un rapport au temps, dans un rapport à l'histoire qui permet de nous montrer que, d'un point de vue très personnel, elle-même trouve problème à régler son rapport au temps et à l'histoire, mais voilà, sans flamboyance, sans, tranquillement, j'ai envie de dire, quasiment. Et je trouve ça assez beau.
Pas mieux, Fabienne ?
Pas mieux.
Bon, bah, très bien. On arrête là-dessus concernant Saigon de Caroline Guénin-Guyenne. La tournée, elle commence au mois de novembre à Grenoble, à la MC2 du 7 au 11 novembre. Ensuite, ce sera Paris du 12 janvier au 10 février à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Puis Rouen du 21 au 23 février au Cédène de Normandie. Dijon-Bourgogne 6, 7, 8, 9 mars. Valence du 1er juin, j'ai pas tout à fait la bonne date, enfin au mois de juin je crois, ou oui. Non, ça doit être mars, une petite coquille sur mon papier. Besançon 25-26 avril, et puis il y aura le Théâtre National de Bretagne à Rennes du 15 au 18 mai, et enfin le CDN de Tours du 29 mai au 2 juin pour cette nouvelle création Saigon de Caroline Guénin-Guyenne.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette première dispute spectacle vivant de la saison, c'est un dernier spectacle vu au Festival d'Avignon, Ibsen Huys, conçu, écrit, mis en scène par Simon Stone, un metteur en scène australien dont on commence à voir de plus en plus souvent le travail en France. il était temps, enfin en même temps il n'a que 33 ans, Simon Stone. On a pu voir Médéa à l'Odéon Théâtre de l'Europe au mois de juin. On a vu d'autres spectacles auparavant aux Amandiers de Nanterre. Simon Stone reviendra à l'Odéon au mois de novembre avec sa version des Trois Sœurs de Tchekhov. Ibsen Huys, lui, ne sera repris que dans la saison 18-19 en France. Mais c'est vrai que ça a été un des temps forts de la 71e édition du Festival d'Avignon. Ça nous permettra aussi de parler ce soir déjà de la façon de travailler de Simon Stone. Cette production s'est faite avec les comédiens du Tunnel Grupp d'Amsterdam, la troupe d'Ivo Van Hove. Stone avait déjà travaillé deux fois avec cette troupe auparavant. Ibsen Huys, la maison Ibsen. C'est une maison dans laquelle Simon Stone a réuni, fait une sorte de condensé du théâtre d'Ibsen. On reconnaîtra des éléments, des pièces du dramaturge norvégien, principalement Solness le Constructeur, mais aussi Le Canard Sauvage, les Revenants, Anémie du Peuple, Petit Aïolf. Enfin, la liste est assez longue, mais en tout cas, tous ces éléments, ils sont recousus, réécrits par Simon Stone, qui propose une saga sur trois générations dans différentes époques, de 1964 à 2017. Trois actes, le paradis, le purgatoire, l'enfer, convoque beaucoup de sujets propres et chers à Ibsen, notamment ceux de la famille, des traumas, de l'hérédité pathologique. Voilà tout ce qu'il y a, et beaucoup d'autres choses encore dans cette maison Ibsen.
Jezus Christus! Wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit godverdomme gedaan? Wie heeft godverdomme die achterlijke geraniums hier gezet?
Hallo,
Daniel, jij?
Nee, ik was...
Dit is godverdomme geen Zwitser chalet. Dit is bedoeld om uit het landschap op te reizen als een monoliet.
Ik weet niet of dat nou helemaal
de baken van de moderniteit in dit godvrezende land.
Dan misschien een beetje verkeerd.
Pardon?
Pa houdt van geraniums.
Ja, dat weet ik, ja. De kleine meid die graag met bloemen speelt.
Hé, hey, laat je me zo met rust.
Thomas.
Zees.
Alsjeblieft. De klootviool.
Een schaduw.
Oh, maar laat toch op met je zelfhulpgelul. Ik wil gewoon iets drinken.
Het is het gedrag van één enkele man.
Moet hier gewoon ergens een dealer zijn. Misschien kent dat meisje iemand.
Alsjeblieft. Caroline.
Nee.
Neem jezelf weer in de hand. Anders ga ik. Het spijt me, maar ik kan mezelf niet permitteren weer te worden mee teruggesleurd in die ellende.
Zo, Daniel, ben je jezelf aan het opstoken?
Heb ik alle reden toe, Vincent.
Maar waarom ben je zo boos op mij?
Boos? Ik ben niet boos.
Hoe gaat het met je werk op de universiteit?
Oh, deprimerend, ja.
Ontwerp dan zelf iets. Laat ze zien hoe het moet.
Geen van jullie was op papa's begrafenis. Alleen ik en een paar van zijn vrienden van zijn werkkamp. Niemand besteedde de aandacht aan.
J'adore entendre parler néerlandais, contrairement bon, certains autour de cette table. Je crois que je préfère encore au danois, c'est pour dire, hein, comme j'aime entendre du néerlandais.
C'est seul à faire la différence.
Non,
autour de cette table,
vous pouvez écrire directement à Jean-Christophe Brianchon la dispute pour ce propos. Ibsen Huys, Simon Stone, Fabienne Pascaud.
Bien écoutez, c'est une nouvelle manière de faire du théâtre. Je ne dirais pas que j'adhère à 100%, mais Simon Stone, il démode Thomas Ostermayer, d'une certaine manière.
Bim. Allez.
Parce que Thomas Ostermayer, qui est un grand maître il est passé du côté des grands maîtres, notamment, il a beaucoup résisté à l'écriture théâtrale, Thomas Ostermayer, ce qu'on appelle le post-dramatique. Il a voulu redonner du sens, redonner le goût des intrigues, de l'histoire, même s'il a été très contesté par les modernistes en Allemagne. Et là, on voit un jeune metteur en scène de 33 ans, comme vous le disiez, Arnaud, qui monte, c'est même plus l'histoire, c'est de manière comme les séries américaines. Il fait un conglomérat de textes qu'il monte très habilement. Alors c'est aussi la génération de Caroline Gulen-Guyen, dont je prononce toujours très mal le nom, je lui ai appris de m'en excuser. Finalement, c'est ce qu'on appelle les écritures de plateau. Il donne des thématiques aux comédiens. C'est les comédiens qui, à force d'improvisation, nourris de thèmes, de ce que leur apporte, des documents que leur apporte le metteur en scène, qui vont recomposer des scènes et l'écriture va se faire à partir de ça. Et finalement, donc, ce sont des textes qui sont pas franchement abouti, dont on peut même pas savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, qui les signe véritablement, mais ça donne une écriture totalement efficace, totalement électrique, dynamique, qui mélange les époques, encore une fois comme dans Saïgon, qui mélange le temps, comme dans les séries, comme dans 24 heures chrono, comme dans toute cette mode de séries américaines qu'on a pu voir, et qui est portée par des comédiens électrisés formidables. Là, c'est la troupe d'Ivo Vanov et ils sont tous...
Pas les plus mauvais. Hein.
Non, c'est pas les plus mauvais, ils sont tous exceptionnels. Donc, ils portent cette construction qui se moque du texte, qui se moque du temps, qui garde finalement des règles classiques que cette maison, qui est la vedette du spectacle. Je crois même qu'on va la retrouver dans Les Trois Sœurs. Donc voilà, c'est tout à fait neuf. Qu'est-ce qui reste d'Ibsen ? Peu importe, après tout, il s'était même permis de réécrire Médée, puisqu'à la fin, Médée mourait quand il avait monté Médée, donc là, il s'en fout un peu. On s'en fout aussi, d'ailleurs. On se fout de la véracité des pièces en question. C'est une histoire de famille glauque, avec de l'inceste, un patriarche hystérique et jaloux de sa descendance, des rapports père-fils, enfin, tout ce que la famille peut avoir de plus sordide nous est montré. Il y a des feux, il y a des incendies et on suit ça absolument hébété et émerveillé.
Ouais, mais qu'est-ce qui reste d'Ibsen, on pourrait dire
non,
aussi...
On s'en fout.
Non, on s'en fout, on peut dire ça comme ça, mais on peut dire aussi tout d'ailleurs.
Tout est là.
Et on s'en fout.
Et on s'en fout.
Ou pas. Philippe Chevillé, Ibsen Ice.
C'est autre non, chose. Au fond, je m'en fous pas, moi. Mais c'est vrai
moi
que j'avais
plus,
pas. J'avais pas vu donc Médée, j'avais pas vu non plus Thieste aux Amandiers. Donc je suis arrivé à Avignon avec. C'était la sensation, le buzz. On avait l'impression que tout le monde avait vu toute l'œuvre complète de Simon Stone. Mais je suis arrivé, moi, complètement vierge devant ce spectacle. Et ça a été vraiment un des chocs, sinon le plus grand choc. J'ai pratiquement pas de critique négative à faire de ce spectacle, parce que la première chose, c'est que j'ai trouvé absolument étonnant parce que l'idée d'une maison d'Ibsen, on se disait, ça y est, ça va être un patchwork, ça va être Ibsen la compile, et d'arriver à ce que disait Fabienne, de faire un texte totalement nouveau, quelque chose quand même d'organique, et ça raconte quand même une histoire. Alors une histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les éléments de l'hypocrisie bourgeoise, des secrets de famille terribles, dans Les Revenants, il y a la syphilis qui rôde,
il y a le sida,
voilà, donc on a cette transposition, mais qui se fait naturellement, et d'après ce que j'ai compris par cette idée de partir des textes, et après de demander à des acteurs qui correspondent à des personnages d'écrire et d'arriver. Il y a des moments qui sont très beaux dans l'écriture. La deuxième chose, c'est...
Je crois qu'il ne faut pas du tout du texte, hein, justement. Pardon, je corrige un peu ce que dit Fabienne. J'entends ce qu'elle dit, mais parce que il y a une matière textuelle très belle, très riche et très précise maintenant qui nous est donnée. Quand le spectacle est terminé, on se fiche du texte original peut-être, mais après, en répétition, même Simon Stone il donne ses situations à jouer, mais il leur parle pendant qu'ils sont en train de répéter. Il paraît que ça les trouble beaucoup, et il y a des systèmes de mégaphone ou de porte-voix, je ne sais pas comment il fait, mais
pour qu'ils... Comme Vincent McCain.
Et c'est très construit.
Il était absent mais présent ce soir.
L'histoire est très construite, d'autant qu'on a sans arrêt des flashbacks, et que en fait, on a une première partie qui est presque dans l'énigme ou d'exposition de la famille, et dans une deuxième partie on tombe, et c'est là que j'étais fasciné, parce que la première partie c'était un peu du Vanhove avec du Bergman, c'était très beau et tout ça. Dans la deuxième partie, on a l'impression, dans ce moment tragique où les secrets sont révélés, où tout d'un coup les morts partent aux vivants, les fantômes apparaissent, et même les morts parlent aux vivants qu'ils étaient, dans cette maison qui tourne avec cette fluidité, parce que il n'y a plus besoin à la limite d'entrée et de sortie, puisque les personnages apparaissent dans les pièces au fur et à mesure qu'elles tournent, que la maison tourne, c'est absolument virtuose. Et moi, ça m'a... Alors pour le coup, dans la deuxième partie, j'étais complètement bouleversé, et évidemment par les comédiens aussi. La scène de la mort du jeune Sébastien qui meurt du sida, c'est à la fois terrible, et je trouve que c'est joué avec une vérité incroyable, et on se pose même plus la question de la modernité. C'est du théâtre qui vous pénètre, qui vous théâtre d'aujourd'hui, et qui vous transforme.
Alors avant d'intervenir, je vois que Jean-Christophe Briançon pivotait sur son fauteuil. Je me demande ce que ça cache comme propos à venir.
Vous nous demandiez si on s'en fout.
Non, ça c'est Fabienne Pascaud qui se fout de tout ce
en
soir.
Général,
pourvu qu'elle soit émue.
Moi, honnêtement, je serais tenté de répondre un peu. Enfin, je m'en suis un peu foutu de cette pièce parce que. Elle est d'une efficacité folle. Hein. C'est la scénographie est sublime, c'est virtuose. Effectivement, il y a quand même des idées. Dans dramaturgiquement, c'est quand même réellement bluffant. Effectivement, la manière qu'il a de jouer avec les textes, de jouer avec les idées, les thématiques, et la façon dont cette maison représente à elle seule à peu près toutes les thématiques d'Ibsen. Honnêtement, c'est très très rare. Après. Philippe parlait d'efficacité, c'est justement exactement ce qui m'a dérangé.
Pas de c'est que exactement d'efficacité, de force, de puissance, je ne sais pas. J'ai dit efficacité.
Vous avez dit le mot, en tout cas.
J'ai dit, bon.
Faites attention.
Je l'interprète
ça pourrait être diffusé à la radio.
Mais je trouve que voilà, cette efficacité, elle est quand même un petit peu anti-théâtrale par essence. On n'est pas là pour être efficace quand on aussi bien quand
on
n'est
pas là pour être inefficace.
Non plus.
Oui, j'ai dit virtuosité, mais on n'est pas là pour être inefficace non plus quand on propose un spectacle.
Le théâtre, c'est quand même un endroit où il est possible de laisser la vie se faire un petit peu en direct. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne voit jamais deux soirs la même représentation. C'est vrai, là, je suis sûr que cette pièce, c'est tous les soirs la même. Elle est tellement construite, tellement parfaite que le sentiment en devient, pour ainsi dire, impossible. Et j'ai trouvé ça très dérangeant. Et je trouve que si vous parliez Théâtre Neuf, Fabienne, si c'est ça le Théâtre Neuf, ça me dérange un petit peu.
Vous préférez le théâtre vieux?
Le vieux théâtre
mais
poussière.
C'est celui d'une certaine génération, je pense, oui, qui adore les séries, qui rêve de cinéma, et c'est vrai qu'il y a
tout
un
à fait.
Changement.
Après, ça n'a rien
cette
à voir.
Cette narration coupée, fragmentaire, ça va avec la culture fragment ou la culture en miettes d'aujourd'hui, tout ça.
C'est vrai, mais ça n'a quand même rien à voir avec le théâtre de Caroline Nguyen, justement, dont on parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quand même je trouve qu'il y a une impossibilité au spectateur de se faire sa place dans ce spectacle. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un spectacle.
Je pense tout l'inverse,
comme ceux de Caroline.
Alors, je vais vous dire pourquoi. Sur la construction, justement, parce que ça procède par des placements temporels très nombreux. Au début, on a des dates, on est en quelle année, qu'est-ce qui se passe, on revient en avant, en arrière. Mais ça permet de reconstituer peu à peu donc l'histoire de ces trois générations. J'aime cette dimension qui est presque policière d'ailleurs, dans la façon dont on va comprendre comment les différentes pièces du puzzle vont s'assembler. Et du coup, moi je trouve que ça permet au spectateur d'être extrêmement actif, au contraire, parce qu'on est sans cesse sollicité pour relier des fils.
Actif dans la compréhension.
C'est déjà ça quand même, parce qu'il y a tellement de gens qui nous des spectacles qui surlignent ce qu'ils ont à dire que franchement je préfère quand même être sollicité de ce point de vue là, mais pas seulement parce que il part d'Ibsen, on l'a dit, mais il interroge jusqu'au très contemporain. C'est vrai qu'on l'a vu nous au mois de juillet 2017, et la dernière époque c'était juillet 2017 pour une raison très simple, parce qu'il parlait. Beaucoup de spectacles ont fait à Avignon et dans le monde, évidemment, cette année. Il parlait de la question des migrants, mais c'est pas quelque chose qui arrivait comme ça, le cheveu sur la soupe. C'était absolument cohérent par rapport à tout le récit qui entourait, par rapport au parcours des personnages. Et je trouve que, on parlait de la question de l'accueil, ou plutôt du non-accueil des migrants, et en même temps, ça renvoyait à des questions qui traversent le théâtre, mais pas seulement, toute forme de dark, jusqu'où on peut accepter l'autre dans sa différence, jusqu'où on peut accueillir l'autre, enfin on va pas citer Lévinas, mais on est quand même dans des choses qui font travailler quand même le cerveau des spectateurs, non Jean-Christophe?
Bien sûr que ça fait travailler, et bien sûr que les thématiques abordées sont importantes, utiles, et en plus bien abordées, puisque le garçon est intelligent, manifestement. Il y a pas de problème.
Pas de doute.
Voilà, il y a à peu près aucun doute. J'ai juste, moi, c'est un petit peu bête et peut-être très simple, mais je vais au théâtre pour ressentir quelque chose. Là, je n'ai rien vu d'autre qu'une virtuosité plaquée sur une histoire remarquablement construite et remarquablement miroir du monde d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est
mais
tout.
Philippe Chevillier.
Moi, je pense. Alors, c'est bien qu'il y ait du théâtre du non-dit, je dirais pas du pas très bien dit, mais du non-dit en tout cas. Mais il peut y avoir aussi du théâtre du dit. Il y a un texte là-dedans que je trouve fort, que je
moi
trouve
aussi.
Même poétique par instant, et qui raconte et qui parle quand même de choses essentielles, des rapports entre les êtres, des mensonges, de la morale bourgeoise, de sa faillite, du délitement. Donc, c'est des choses, moi, qui m'ont touché. C'est justement là que je trouve que le théâtre. Sous cette forme, qui n'est pas une compétition avec les séries télé, mais qui fait penser aux séries télé. C'est que le théâtre, justement, remporte une victoire sur les séries télé, qu'il arrive à être beaucoup plus émouvant que quelque chose de très efficace avec les rebondissements, etc. Parce qu'on a dedans, on assiste en plus à des comédiens qui ressentent les choses qu'ils sont en train de dire, qui les ont inventées sur scène, donc, et qui portent, moi encore une fois, sur cette scène sur le sida au théâtre, j'ai trouvé que c'était une des plus fortes que j'ai jamais vues. Donc tout ça, tout ça m'a touché. Mais évidemment, on rentre dans ce problème qu'il y a eu quand on discutait de Saïgon. C'est que si Jean-Christophe a pas ressenti d'émotion, je comprends son propos. Moi, j'en ai ressenti tout le temps. Donc c'est pour ça que je pense l'inverse.
Et ça se discute pas.
Et ça ne se discute pas.
Bon, ça c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui nous reprochent qu'il y ait trop de passion ce soir dans la dispute, le curieux des arts. Et avec ça, il a pas encore mangé. Mais ça va, il est que 19h57. Vous pouvez rester encore quelques instants. Et même ensuite, Fabienne?
Moi, je serais plutôt du côté de Jean-Christophe. Parce que je trouve que c'est admirablement fait, mais qu'il n'y a pas de place pour le doute. Et moi, ce que j'aime au théâtre, c'est la part du doute, le petit entre-deux où je peux me glisser. Là, c'est tellement habile, il y a tellement de maestria que cette histoire, elle est superbe, mais bon, pour moi, c'est pas franchement du grand théâtre, c'est du super théâtre qui réingurgite les codes d'aujourd'hui.
Bon, Philippe Chevillier, nous ne sommes pas d'accord.
Non, parce qu'il y a du doute tout le temps.
Deux.
On sait pas.
Non, il n'y a pas de doute là.
Tous les personnages sont des personnages ambigus. Il y a de la perversité, il y a du doute, il y a quelque chose de dramatique qui se passe et qui nous dépasse. Moi, j'estime que c'est un grand test, comme les Ibsen, comme sont les pièces d'Ibsen.
C'est parfait, mais trop.
Mais c'est même pas parfait, c'est beau.
C'est beau, c'est émouvant. Moi, j'avoue que c'est un spectacle qui m'a terriblement ému, cette Ibsen Huis. J'espère qu'on verra celui-ci en France la saison 18-19. En attendant, on verra du Simon Stone avant cela dans nos frontières, et notamment avec ses trois sœurs. Cette revisitation, on imagine, parce qu'il revisite...
Là, avec des acteurs français.
Avec des acteurs français.
Peut-être pas la même virtuosité.
Bah, et oui, mais il va travailler avec...
Rick Caravaca,
avec
autres.
Elle et Céline Sallette.
Céline Sallette. Et Valéria Bruni-Tedeschi.
Oh. Quelle distribution, bah, on attend ça. Bon, c'est normal qu'ils ont été très en retard, mais c'est quand même le jeu de la dispute. On fait gagner ce soir des invitations pour voir l'exposition Diorama jusqu'au 10 septembre au Palais de Tokyo à Paris. Et c'est Grégoire Di Fiore qui va nous dire la question.
Quel peintre partage l'honneur de l'invention du diorama avec Louis Daguerre?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez bien sûr réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC dès 20h et demain pendant le direct sur le compte Twitter Dispute FC. On parlera de musique demain en compagnie de Sophie Rosemont, Hugo Cassavetti, Christophe Comte. On parlera du dernier disque d'Arcade Fire, du nouveau disque de Laurent Voulzy, du nouveau disque de LCD Sound System. Merci.